Bonjour à tous, la série des bourgmestres bruxellois et de la périphérie bien sûr. Nous allons continuer avec une commune, une gigantesque commune, Schaarbeek, et avec Cécile Jodogne, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous rencontrer. Alors, on va directement passer la parole à Paul Grosjean.
Oui, absolument, je voulais faire une petite bio de Madame Jodogne qui a quand même déjà pas mal bourlingué finalement. C'est ça qui est intéressant, ce parcours, il commence... On ne va pas donner la date, mais dans les années 60, un 1er avril, voilà, à Louvain. Et vous entrez au FDF en 1985, voilà, donc il y a déjà quelques années. Et en 1987, vous devenez licencié en sciences géographiques à l'UCL, si je ne m'abuse.
Tout à fait.
Voilà. 1988 sont vos premières élections communales à Uccle. Parce que vous êtes plutôt ucloise à la base, il faut le rappeler.
J'ai grandi majoritairement à Uccle, oui.
Voilà. 89, vous êtes assistante à l'université. Oui, parce que l'enseignement, ça fait partie aussi de votre vie. Je crois que c'est important. 1990, licenciée en sciences économiques de l'UCL. Donc ça, c'est bien. Je trouve ça une belle complémentarité entre la géographie et l'économie. Et voilà. En 92, vous entrez dans le cabinet Didier Van Nijl, qui est secrétaire d'État aux monuments et sites. Ce qui montre, je crois, déjà un goût pour le patrimoine, dont on parlera plus tard, évidemment, parce que Schaarbeek est une commune merveilleuse à ce niveau-là. Et en 95, vous rejoignez à Schaarbeek Bernard Clerfailly. Je crois que c'est un moment important pour vous. Et vous vous installez définitivement à Schaarbeek en 96. Donc ça, c'est quand même un moment charnière dans votre vie. Et en l'an 2000, vous êtes élu conseillère communale à Schaarbeek. 2004, c'est l'ouverture de la maison Autrique. Et vous êtes la directrice de la fameuse maison Autrique, on va en parler, parce que ça, c'est une des pépites scarbécoises, évidemment. 2006, vous devenez échevine de Schaarbeek. 2009, vous êtes élue députée bruxelloise, ça c'est important. Et pour la première fois, en 2009, vous devenez bourgmestre faisant fonction, FF, comme on dit maintenant. 2012, échevine pour la seconde fois, ou la deuxième plutôt. 2014, alors là, ça c'est important, parce que ça c'est le début d'une carrière ministérielle. Secrétaire d'État au commerce extérieur à la région Bruxelles-Capitale. Un bon souvenir.
Oui, beaucoup de bons souvenirs.
Oui, je crois. Et je termine en parlant 2019, où pour la seconde fois ou la deuxième fois, vous devenez bourgmestre FF, faisant fonction. Et donc, il y a vraiment un ancrage scarbécois, un engagement, on va le dire comme ça, qui mérite d'être raconté.
Voilà, formidable parcours. Alors, nous avons envie de parler tout d'abord de Schaarbeek maintenant. Schaarbeek, pourriez peut-être nous faire un petit pitch de la commune. Résumez-nous cette commune gigantesque. Je pense que tous les Bruxellois sont un jour passés par Schaarbeek pour quelque chose. Et dites-nous toutes les valeurs schaarbeekoises.
Alors, peut-être pour donner un peu, effectivement, une échelle, 8 km², ça ne dit pas grand-chose. Si je vous dis que c'est 5% du territoire régional, donc ce n'est pas beaucoup, pour 11% de la population. Donc, c'est déjà vous indiquer que Schaarbeek est une commune très dense et néanmoins très verte. Alors plus dans certains quartiers que dans d'autres, mais avec quand même une présence du magnifique cœur de Schaarbeek qui est le parc Josaphat, d'autres parcs aussi, et de plus en plus d'arbres, d'arbustes, de fleurs dans nos rues, c'est important. Une commune très jeune aussi, une des communes les plus jeunes de Belgique, avec 25% de la population qui a de moins de 18 ans, pour 10% de plus de 65 ans. Donc ça vous donne aussi une idée de la pyramide des âges.
Et donc c'est une idée, en fait, dans l'esprit des gens, on a encore l'impression que Schaarbeek est une commune avec un public très âgé, et en fin de compte, c'est pas du tout vrai.
Ah non, c'est plutôt tout à fait l'inverse, d'où de belles pressions au niveau de nos crèches et de nos écoles. Un fameux défi que l'on a commencé à relever, avec succès d'ailleurs ces dernières années. Voilà, une commune évidemment très mixte aussi, tant dans les profils culturels que d'origine et que socio-économique aussi. Donc beaucoup, beaucoup de défis et des valeurs bien d'accueil, de richesse justement, qui sont vraiment à la base... de beaucoup d'initiatives, justement, diverses et variées, et d'ambiances très, très différentes, ce qui fait aussi une des qualités de notre commune.
Et je crois qu'il y a aussi pas mal d'entreprises. C'est normal, évidemment, forcément, dans une ville qui a des entreprises, mais il faut peut-être insister sur cette présence économique également à Schaarbeek.
Alors, paradoxalement, une assez grande commune, ancienne, qui s'est fort, fort développée à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, donc peu de très grandes entreprises, hormis bien sûr, on pense tout de suite à la RTBF, à la VRT, à RTL, à quelques grands bureaux du côté du quartier Nord, avec notamment Proximus, pour ne citer qu'eux. Mais surtout alors beaucoup d'ateliers qui se sont développés et qui aujourd'hui sont des petites PME. Donc on a peu de bureaux par rapport à d'autres communes de la première couronne et du centre-ville, mais beaucoup de petites entreprises. Et alors, et je m'en réjouis vraiment beaucoup, de plus en plus d'initiatives de jeunes qui se lancent soit dans des start-up, soit dans des commerces. On a bien sûr... ces dernières années, connu beaucoup de nouveaux restaurants, de cafés branchés, d'initiatives de ce type-là. Et ça, je pense que ça montre bien le renouveau de notre commune.
Ça, c'est l'image, effectivement, quand on se balade du côté du parc Josaphat, on voit tous des quartiers avec des trottoirs qui sont bien refaits et avec des terrasses sympathiques, accueillantes et des vitrines très attrayantes aussi, avec des produits de qualité, souvent bio aussi, etc. Enfin, toute une série de choses qui s'adaptent très très vite, très fort à la mentalité d'aujourd'hui.
Donc on a vraiment, depuis ces dernières années, mais ça fait 25 ans qu'on y travaille, hein, un renouveau, Scarbet qui est une des places to be à Bruxelles aujourd'hui, avec beaucoup de jeunes qui viennent s'installer, de jeunes ménages, qui sont séduits justement par notre qualité urbanistique et notre richesse patrimoniale, mais je crois qu'on va y revenir.
Tout à fait, il y a déjà beaucoup d'idées qui ont été exprimées. Alors, on va faire une petite bouffée musicale et on revient dans quelques instants avec Cécile Jodogne. Nous sommes de retour avec Cécile Jodogne. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors, nous allons continuer avec des sujets qui vous tiennent à cœur, qui tiennent à cœur nos auditeurs aussi, parce qu'ils s'intéressent et veulent découvrir effectivement les spécialités de ce qui se passe à Scarbec. Paul.
La marque de Scarbec, c'est aussi la multiculturalité. Et voilà, il y a différentes communautés qui cohabitent, je dirais, pacifiquement. Ça, c'est important à préciser, qu'il n'y a pas de ghetto à Scarbec, mais il y a quand même une communauté turque, une communauté marocaine, espagnole, roumaine, bulgare, etc. Donc, apparemment, tout ça fonctionne bien, comme ça peut fonctionner entre Belges, si je puis dire.
Oui, oui, bien sûr. Donc, effectivement, on est assez fiers ces dernières années d'être dans une commune où les choses se passent bien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps, bien sûr, comme partout, l'un ou l'autre incident, des conflits de voisinage. On travaille en tout cas et on met les outils pour que ça puisse s'apaiser rapidement. Mais ça fait vraiment la richesse aussi de notre commune. Ce sont ces ambiances très différentes, cette possibilité aussi de se sentir un peu ailleurs entre évidemment le quartier de la place des Chasseurs Ardennais, de l'avenue Max et Plaski. Et puis, si vous avez envie de trouver des choses beaucoup plus spécifiques, du Moyen-Orient par exemple, et que vous allez rue de Brabant, vous êtes dans des atmosphères très très différentes.
C'est un voyage immédiat.
Voyage immédiat avec une richesse donc d'atmosphère, de produits aussi que l'on veut découvrir, d'ambiance dans les cafés. Donc oui, c'est très certainement une caractéristique à Scarbec. C'est aussi un point d'attention pour vérifier justement que tout se passe bien et mettre en place le bien-être et le bien-vivre ensemble à Scarbec.
Pour matérialiser un petit peu par des images, pour mettre les limites de Scarbec, ça va de la place d'Ailly à l'avenue.
Alors c'est vraiment du pont Van Praat jusqu'au square Vergoot. Et dans l'autre sens, on pourrait parler de la place de la Reine, donc de la rue Royale, et puis de la rue Royale Sainte-Marie, jusqu'à bien Belle RTL. Donc RTL est encore sur Scarbec, par exemple, pour parler d'un de vos concurrents.
On voit la diversité incroyable de style de quartier aussi, ce qui fait une richesse formidable.
Une richesse formidable.
Et on peut tout faire à pied.
On peut quasi tout faire à pied, parce qu'effectivement, ce n'est pas très très loin, surtout si on veut aller au parc Josaphat, qui est au cœur. Et puis dire aussi que c'est avant tout une richesse humaine, c'est bien sûr une richesse d'ambiance de quartier, mais une richesse humaine que d'avoir cette diversité qui a une influence évidemment sur les activités aussi culturelles, par exemple.
Ce qu'on peut dire aussi de Scarbec, c'est que c'est devenu une commune très tendance, très à la mode, notamment pour les Européens. pour les ressortissants européens qui travaillent à la Commission notamment, etc. Et je me réfère à une autre époque que les jeunes ne peuvent pas connaître, si je puis dire, mais que moi j'ai connue étant très vieux, l'époque d'un certain Roger Nolz, ça n'a plus rien à voir avec ce qui est devenu Scarbeck aujourd'hui, qui lui se promenait dans ses propres rues sur un chameau, ce qui évidemment n'a pas donné la meilleure image de sa commune, ce qui n'était pas très intelligent de sa part.
Surtout que c'est la commune des ânes.
Voilà. Et en plus, et maintenant, voilà, je veux dire, il y a une mutation dans cette commune quand même assez exceptionnelle.
Tout à fait, mais c'est une époque, même s'il ne se promenait pas, c'était pas son moyen de transport, mais c'est vrai qu'il l'a fait. Mais voilà, par rapport à cette époque que vous rappelez ici, et qui était une époque sombre, la commune, à ce moment-là, était rejetée, oubliée, mise de côté, personne ne voulait... en parler, et donc c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui, Scarbeck est une commune attractive où les jeunes ménages, je l'ai dit, veulent venir, des familles. C'est une commune qui est centrale, qui a, je l'ai dit déjà aussi, un parc magnifique, qui a un urbanisme extraordinaire, mais qui intéresse aussi justement par cette diversité. Par cette richesse humaine qu'on peut y trouver et donc l'énorme offre d'activités qui peuvent s'y dérouler. Je pense que, à nouveau, c'est important, c'est un atout, ce sont aussi des défis et on doit y travailler et nous y travaillons au quotidien.
Eh bien là, on va encore réfléchir dans quelques instants et découvrir effectivement tout ce qui se passe à Scarbeck. Mais une petite bouffée musicale, Charles. Nous sommes de retour avec la bourgmestre de Scarbeck, Cécile Jodogne, et Paul Grosjean.
Alors, on va parler de patrimoine, évidemment, qui est un peu ma passion. Et tout commence peut-être par la maison communale à Scarbeck, ce qui me paraît logique, qui est déjà une des plus belles de la région bruxelloise. Et il faut peut-être en parler, Madame Jodogne. Donc, il date de 1887, qui a été créé par Jules-Jacques van Isendijk. Et il y a tout un quartier, en fait, qui s'est créé autour de cette maison communale.
Tout à fait, la maison communale, elle a été construite quasi au milieu d'un champ de patates, ou à peu près. Mais les autorités communales, à cette époque, avaient très très bien senti les choses. Ils ont vu que la population augmentait, que Bruxelles sortait de ses murs, et qu'une des premières destinations, c'était vers Scarbeck, notamment l'axe de la chaussée de Haecht. Et donc, ils ont décidé de construire cette maison communale, de l'éloigner des quartiers plus centraux, et de développer le quartier, qui est la place Collignon, et puis tous les axes autour. Et très vite, ça a fait tache d'huile et la commune s'est étendue. Et d'autres grands axes ont été créés dans la foulée jusqu'au début du XXe siècle avec l'avenue Louis-Bertrand, toute la percée vers la gare de Scarbeck, l'avenue Haramoir, tous ces grands axes prestigieux qui datent effectivement de cette époque où, donc entre 1890 et 1920, enfin 12 avant la guerre, Scarbeck a vraiment énormément grandi.
Oui, et puis vous parlez de la gare de Scarbeck, justement. Il y a le musée du train qui est aussi un vestige fantastique avec la scénographie de Scheuten. C'est quand même un endroit extraordinaire.
C'est un bijou.
Un bijou.
Que j'invite vraiment, je vous invite tous à venir le visiter, si ce n'est déjà fait. C'est 3 étoiles au Michelin. 3 étoiles au Michelin, c'est vaut le voyage. Donc c'est pas à faire par un petit détour après la Grand Place. C'est vraiment.
C'est vraiment un voyage quand on y va, parce que moi j'ai pu le découvrir dans des circonstances tout à fait positives, c'est-à-dire tel qu'il a été créé par Scheuten. C'est fabuleux. En famille, mais même entre amis, c'est vraiment génial.
93 ans ou 103. Ans, tout le monde va.
Voilà, ça c'est vraiment
plaisir.
Pour pousser les gens à aller dans un musée. Quand on est allé dans ce musée-là, on se dit mais il faut qu'on aille dans les autres, parce que s'ils sont tous comme ça, c'est génial. Et ça c'est vraiment important, et en même temps, l'environnement est superbe aussi à l'extérieur, quand on y arrive, c'est fabuleux.
Malheureusement, on ne pourra pas parler de toutes les grandes maisons, les belles maisons de Scarbeck, mais enfin, parlons quand même de la maison Autric, dont vous avez été la directrice, chère Madame Jodogne. Il faut quand même en parler un tout petit peu.
Et donc cela, c'est aussi une rencontre entre François Scheuten, Benoît Peters, l'architecte Francis Metzger, Bernard Clairfaillie et moi-même. Et un rêve, cette maison était à vendre, première maison de Victor Horta à Bruxelles. La commune a pu l'acheter et on y a créé ce projet de la maison des maisons, la maison Autric, où vous découvrez d'abord les prémices de l'art nouveau dans ce premier bâtiment d'Horta, et puis petit à petit vous vous enfoncez ou plutôt vous montez dans l'univers de Skeuten et Peters. Et c'est une maison-musée qui aujourd'hui accueille encore deux grandes expositions chaque année. C'est petit, mais là aussi c'est un magnifique voyage.
C'est un bijou, comme on dit.
À proximité d'une avenue non moins magnifique, puisque l'avenue Libertrand, qui part de l'église Saint-Servais et qui s'ouvre de manière très majestueuse sur le parc Josaphat, est une des plus belles avenues de Bruxelles. Et je ne mens pas en disant cela.
Oui, avec des immeubles fabuleux. Ouais.
Art nouveau, art déco, éclectique.
En matière de patrimoine, il y a une école assez célèbre qui s'appelle la Vierge Fidèle, et qui est à Scarbeck, si je ne m'abuse. Et c'est quand même un bâtiment, enfin, c'est plusieurs bâtiments d'abord assez exceptionnels.
Square Vergotte.
Au Square Vergotte, moi j'aurais parlé plutôt de l'école numéro 1, qui est une école d'Henri Jacobs. Henri Jacobs est un grand bâtisseur d'écoles à Bruxelles et dans les environs d'ailleurs. Et deux de nos magnifiques écoles sont d'Henri Jacobs, sont des écoles art nouveau, avec des fresques de Privas-Livemont, avec des mosaïques. Et donc, on a là un patrimoine scolaire très intéressant. Alors, Vergotte, l'école est aussi intéressante, mais elle est plus dans le style plus classique, puisque vous le savez, le réseau catholique était un peu plus classique dans son bâti architectural, là où l'innovation était plutôt du côté, en effet... de ce qu'on appelait alors à l'époque les libéraux progressistes ou les socialistes progressistes, avec des écoles très très lumineuses.
Puis c'est aussi la cité des artistes, Scarbeck. Et à la fin du 19e siècle, il y avait un grand peintre bruxellois qui était Alfred Verhoeven. Alors je viens d'écrire un livre justement sur Knok, donc je sais de quoi je parle. Alfred Verhoeven a lancé un peu la mode knokoise à la fin du 19e siècle parce qu'il a été le premier artiste à passer ses vacances à Knok et à essayer de peindre évidemment cette lumière fantastique de la mer du Nord. Et il a attiré d'autres artistes. Puis derrière les artistes, il y a eu des golfeurs, il y a eu des tas de gens qui sont venus dans cet endroit assez exceptionnel. Et il a vraiment, quand on va à Knok, on discute avec les autorités communales, il a été presque le fondateur du zout, entre guillemets, donc il y a un petit côté snob derrière tout ça. Eh bien, ça vient de Scarbeck et je voulais vraiment en parler parce que peu de gens font la liaison entre Scarbeck et le zout.
Je ne connaissais pas ce lien historique qui m'amuse beaucoup entre Knok le zout et Scarbeck. Et je vais certainement creuser un petit peu, je lirai votre livre pour pouvoir creuser cela. Et donc des artistes, mais des artistes d'hier, on en a beaucoup, mais il y a aussi les artistes d'aujourd'hui, puisque Scarbeck est une commune qui héberge, qui accueille encore énormément d'artistes.
Est-ce
également.
Que Morane n'habitait pas à Scarbeck ?
Morane habitait tout à fait à Scarbeck, Danny Klein y a habité également, et puis on a aussi des designers qui sont là, des musiciens, des dessinateurs, alors François Skeuten reste très très attaché à Scarbeck, même s'il n'habite plus, il n'y est plus domicilié. Mais voilà, donc une commune avec un patrimoine humain, artistique et culturel très important aussi.
On a déjà pu constater cela parce que certains artistes qu'on interviewe ici, effectivement, nous ont déjà signalé qu'ils aimaient cette ambiance scarbécoise. Donc là, c'était assez chaleureux quand ils l'exprimaient, effectivement. Un peu de musique et nous revenons dans quelques instants pour la suite
nous sommes de
notre mag avec le focus. Le focus, c'est-à-dire l'exemple choisi pour la commune de Scarbeck par la bourgmestre, une personnalité, une association ou un thème vraiment important. Alors, je pense que vous avez choisi ce que je vais appeler le foisonnement, le bouillonnement de la culture, du sport, du milieu associatif à Scarbeck, parce que c'est vraiment, vraiment tout à fait typique de la commune.
Oui, c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais autour alors plutôt du social et justement de cette lutte contre les politiques de Roger Knowles. Et aujourd'hui, ce foisonnement, il est plus important que jamais, à la fois dans des associations, toujours certaines associations sociales très très dynamiques qui s'investissent réellement au quotidien sur le terrain au service des Scarbeckois. Je voudrais parler aussi des associations sportives avec notamment un fait je trouve assez remarquable, une fédération des associations sportives scarbeckoises, donc des clubs de sport totalement différents qui se sont réunis pour porter ensemble les couleurs de 10-30, donc qui est le code postal de Scarbeck pour ceux qui l'ignoreraient. Et donc vraiment ces associations sportives de foot, de basket, de tennis de table, de judo, et j'en oublie, qui se sont fédérés pour porter les couleurs de Scarbeck en dehors, lors de leurs compétitions notamment. Et aussi, bien sûr, on en a déjà un peu parlé, mais de foisonnement d'associations culturelles, que ce soit des théâtres, comme évidemment on connaît le mythique 140, les Halles de Scarbec, Océan Nord, l'Os à Moelle, la Balsamine. J'en oublie l'une ou l'autre.
Et des théâtres très différents, qui se complètent, qui ont des publics différents.
Et, ouais,
et il faut aller découvrir l'un, l'autre, etc. C'est une occasion aussi pour tous les auditeurs d'aller voir sur Internet toute la programmation qu'il y a de ces théâtres. Scarbec, vous tapez ça tout simplement, vous allez voir, il y a des petites merveilles. Moi, il y en a un que j'adore, c'est un tout petit cabaret théâtre. Et effectivement, je pense que Jacques Brel est même passé par là,
oui,
au tout début, etc.
Il a habité à Scarbec, je crois.
Jacques Brel a habité à Scarbec, Magritte aussi, il est décédé. Donc voilà, c'est ce foisonnement d'activités de toutes sortes. Alors je pourrais citer aussi évidemment les associations de jeunesse, et je voudrais peut-être terminer, après avoir parlé du sport, de la culture, des associations plutôt dans le social, je voudrais aussi parler deux choses. À la fois des mouvements citoyens qui sont aussi très dynamiques, et quand Bernard Clerfailly est devenu échevin et que j'étais sa chef de cabinet, il y a eu des réunions très très dures, parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient plus vu de politique sur le terrain, et donc ça je m'en souviens fort. Et maintenant aujourd'hui on est fiers d'avoir vraiment beaucoup beaucoup de dynamique aussi citoyenne, et puis on l'a évoqué, tout ce foisonnement de jeunes entrepreneurs qui ouvrent une épicerie fine, un café qui torréfie lui-même son café, qui le vend, avenue Louis-Bertrand, ou encore un nouveau restaurant qui s'inscrit dans une mouvance gastronomique vraiment de très très haut niveau. Donc toutes ces créations, tous ces jeunes qui ou moins jeunes parfois d'ailleurs, qui viennent avec de nouvelles idées et qui font vivre Scarbec.
En d'autres mots, qui osent entreprendre, prendre des risques, des fois changer de métier pour faire tout à fait autre chose. C'est une aventure qu'on aime à BXFM, parce que c'est vraiment notre leitmotiv, c'est encourager, inspirer tous ceux qui veulent le faire, et que ceux qui l'ont déjà fait inspirent les autres, donc effectivement. Alors merci beaucoup pour ces informations sur ce foisonnement, parce que ça pousse tous les auditeurs à les découvrir, ça effectivement. C'est ce qu'on a envie, c'est que d'une commune à l'autre, on va voir ce qui se passe, on va découvrir. Mais dans quelques instants, vous allez découvrir la personnalité de Cécile Jodogne de manière plus précise, plus intime, un peu de musique juste auparavant. Et bien nous sommes de retour avec Paul Grosjean. Paul Grosjean qui va permettre à la bourgmestre de se révéler un peu plus,
oui,
par quelques questions sur la personnalité.
Elle doit nous montrer ce qu'elle a envie de nous montrer, et pas plus, évidemment. Mais effectivement, Cécile Jodogne, pendant les vacances par exemple, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est souvent très révélateur finalement de la personnalité et des goûts personnels.
Alors, je vais tout de suite vous avouer que je ne suis pas une grande sportive, donc je ne vais pas faire de grands treks dans la montagne ou autre. Je suis, par contre, je suis prête à faire des kilomètres, quand je dis des kilomètres, 20-25 kilomètres sur une journée pour arpenter les rues d'une ville que j'ai envie de découvrir. Et donc ça, je fais vraiment très très volontiers. Je suis curieuse de voir comment ça se passe dans les autres villes, de me nourrir aussi de bons exemples dans les aménagements publics. Et alors là, que ce soit à Bruxelles, en Belgique ou à l'étranger, arpenter les musées et les galeries est aussi quelque chose qui me nourrit, qui me détend, qui me permet de faire un break. Et donc je suis très orientée vers tout cela.
Votre dernier voyage, par exemple, on m'a dit que c'était du côté de Vienne. Qu'est-ce que vous retenez de Vienne, par exemple? Qu'est-ce qui vous a frappé à Vienne, qui est quand même un modèle en matière d'urbanisme, entre guillemets?
Alors, c'est effectivement une très belle ville qui a, en termes d'urbanisme, pas mal d'exemples remarquables, surtout qui datent du tournant, justement, fin 19e, début 20e, ou même un peu avant, avec l'émergence de l'Empire avec François-Joseph. Mais donc, oui, beaucoup, beaucoup d'exemples. Maintenant, je suis revenue en me disant que Bruxelles n'avait quand même pas tout à envier à Vienne, et notamment en matière d'espace vert, justement. Bruxelles est une ville beaucoup plus verte que Vienne. Mais voilà, c'est Vienne, c'est Lisbonne aussi, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai revu. Et puis Rome, que j'ai redécouvert, qui est une ville absolument fabuleuse quand on aime la culture, que ce soit celle de l'Antiquité ou de l'art contemporain, qui m'intéresse beaucoup aussi.
Et la culture culinaire, peut-être aussi.
J'apprécie effectivement de bien manger, de pouvoir déguster un bon vin. Je ne suis pas très bière, je ne devrais pas dire ça pour une bruxelloise, mais effectivement, aller découvrir de nouvelles adresses.
Alors qu'il y a un musée de la bière à
Scarbeck. Il y a un musée de la bière, celle-là je la bois. mais donc oui, pouvoir découvrir de nouvelles adresses avec des amis est aussi quelque chose que je fais avec grand plaisir. Malheureusement, pas assez souvent. Parce que le temps me manque.
Et le dernier musée qui a retenu votre attention, soit à Vienne ou ailleurs, hein, ou même à Bruxelles d'ailleurs.
Alors à Bruxelles, le dernier musée que j'ai fait, c'est la dernière exposition à Train World, qui est magnifique. Et celle qui va arriver est encore, sera encore être plus belle, je pense. À Vienne, j'ai découvert le musée Léopold, qui est à la fois très très beau dans ses collections, mais aussi dans sa muséographie. C'est vraiment un vrai plaisir de se promener là. Et puis j'attends avec... elle vient d'ouvrir en fait, mais donc je ne vais pas trop tarder avant d'aller voir l'exposition de David Hockney à Beaux-Arts. Voilà mon programme pour les jours à venir.
Alors, en quelques mots, le caractère de, ou la vision de société de Cécile Jodogne.
Dans les années à venir, vous voulez dire
en... Non, dans votre caractère. Dans votre...
Ah, mon caractère. Mais je dirais sans doute l'ouverture d'esprit, la curiosité, de la bienveillance et de l'empathie aussi. Et tout ça, ça se traduit, je pense, c'est ce qui me revient en tout cas, par une écoute et la volonté de trouver des solutions équilibrées. Donc je suis quelqu'un qui déteste la polarisation, les clivages, et je trouve qu'on avance mieux, peut-être un peu plus lentement, mais mieux, quand pas à pas, on essaye de convaincre le plus de personnes possible. Pour moi, l'adhésion à des projets, que ce soit en mobilité ou dans d'autres choses, l'adhésion est très importante pour qu'on puisse avancer avec le plus de monde possible, en évitant justement les clivages. Et pour cela, il faut pouvoir avoir de l'ambition, il faut cette ambition, il faut partager un objectif ambitieux, mais pouvoir aussi faire des expériences, des projets qui montrent que ça marche, et que donc la fois suivante, quand vous venez avec un projet, plus de gens seront convaincus que c'est la bonne direction. Donc je pense vraiment que c'est un des grands défis au quotidien, à Bruxelles et ailleurs, c'est de pouvoir en effet convaincre et faire adhérer et donc changer les comportements du plus grand nombre possible pour atteindre un objectif ambitieux.
Je crois que, je ne veux pas genrer la discussion, mais ce sont des qualités très féminines. L'écoute, l'empathie, l'ouverture, la non-polarisation. Il y a des hommes qui sont aussi capables d'être fédérateurs. Un certain Bernard Clairfaillie, par exemple, est sûrement très fédérateur. Mais je trouve que c'est plutôt typiquement féminin, cette approche de la politique. Parce que la politique, par nature, est plutôt polarisante. C'est vrai, on aime le débat, etc. etc. Et ici, c'est un engagement vers le centre, en quelque sorte, qui est assez intéressant.
Ce qui est difficile, parce que je rajoutais quand même qu'on me reconnaît aussi, et je suis assez combative aussi, donc c'est-à-dire que ce n'est pas une... Parce que parfois on prend ça pour de la faiblesse ou du ni chèvre ni chou, quand j'ai des dossiers, je suis convaincue de la pertinence, je vais me battre, je vais défendre ma position ou celle qui est partagée par le groupe qui doit le porter, donc que ce soit le collège ou le conseil communal ou d'autres, et donc ça n'empêche évidemment cette ouverture d'esprit, une envie de combativité, de pouvoir défendre ce que je souhaite, parce que je pense que c'est juste. Je crois que c'est important à souligner aussi.
Mais ça, je crois qu'on a déjà pu le voir très souvent, sur pas mal de dossiers, effectivement, la pugnacité. Mais la pugnacité ne veut pas dire l'agressivité.
Exactement.
C'est ça qui est important. Scarbeck 2030, vous avez un rêve, des rêves?
Mais je dirais, ce sera sans doute un peu bateau, mais poursuivre à améliorer le bien vivre et le bien-être à Scarbec, donc la qualité de vie dans tous les quartiers, avec ben justement cette ouverture d'esprit, cette tolérance, que les tensions qui surviennent encore et qui vont sans doute encore survenir puissent être au fur et à mesure apaisées, parce que justement, l'ensemble, ou une grande majorité de la population, adhère dans le projet que l'on veut porter et vers lequel on veut aller, les objectifs qu'on se fixe pour Scarbec.
Mais merci beaucoup Cécile Jodogne. Nous allons certainement vous retrouver régulièrement, nous l'espérons en tous les cas. Et tous les messages de votre commune, comme celles des autres communes également, eh bien, sont les bienvenus. Nous les diffuserons, nous les relayerons, bien sûr, parce que Bruxelles vit, Scarbec vit de manière géniale. Il faut le savoir, tous les habitants doivent le savoir. On a beaucoup de chance aussi d'avoir des gens qui s'occupent, qui se préoccupent de la vie, de l'organisation de la vie communale, parce que ça c'est important et ces gens sont proches de tous les citoyens, on le ressent aux différentes interviews, effectivement, et c'est ça qui est important, c'est une belle image de la politique. Merci beaucoup Cécile Jodogne.
Merci à vous.
Merci Paul.
Merci.